se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
De l'eau,
les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Pour tout vous dire, je sais pas si un jour il faudra qu'on fasse un débat là-dessus, mais on est en train de se demander, comme l'heure du déjeuner approche.
Il n'est que 11h pour toi.
Il n'est que 11h. Où est-ce qu'on pouvait trouver une bonne pizza? Vous voyez, pas très loin de
nous appeler au 32-16.
Bah, il y a notre copain Cyril Lignac qui est pas très loin des studios.
Il y a une pizza qu'on peut acheter. Une pizza où il faut que je vende mon sac à pour l'acheter.
Écoute, juste en face, t'as CTLM, tu peux aller faire un prêt à la conso et tu vas manger ta pizza.
Les amis, d'ici midi, que va-t-on faire dans les GG? De quoi va-t-on discuter? On a un GG 7 et match à 11h20 sur le cas Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, la féministe qui fait beaucoup parler d'elle, clivante. On l'a vu hier à l'Assemblée nationale faire un geste féministe. Est-ce qu'elle est un atout pour les femmes, Sandrine Rousseau?
Est-ce qu'elle est plus saillie que Greta Thunberg?
Une équipe, oui, avec Olivier, avec Étienne. Une équipe, non, avec Zora et Stéphane. Et vous venez en discuter avec nous au 32-16. En attendant, vous savez, comme tous les jours à 11h sur Internet, on vous propose deux sujets de discussion au moment où commence l'émission des GG. Et on va savoir lequel vous avez choisi.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
Donc, on avait deux propositions. Le Parlement européen qui impose le chargeur unique pour smartphone, c'est une chose. Ou bien, est-ce qu'on remet le masque dans les transports? Est-ce que ça va revenir et de manière obligatoire? Eh bien, je pensais que vous alliez regarder le côté pratique du chargeur. Quoi. Non, vous voulez qu'on reparle Covid?
Du masque.
Oui, on reparle Covid. Eh bien, on va écouter le ministre de la Santé, M. François Braun.
Et c'est à l'étude, comme toutes les possibilités sont à l'étude dans le sein de ce conseil scientifique. Et donc ce port du masque, comme le fait de recommander simplement le masque à nos concitoyens lorsqu'ils sont dans des lieux un petit peu bondés, c'est tout à fait normal que ce soit dans les réflexions actuelles de ce conseil.
Voilà, donc remettre le masque peut-être de manière obligatoire dans les lieux collectifs. 32-16 pour en discuter avec les GG. Ben,
c'est vrai que tous les indicateurs sont en augmentation. J'ai regardé les chiffres ce matin. On est entre 80 000 et 90 000 nouveaux cas par jour. Du côté des morts, c'est 74. On voit que le vaccin quand même a des effets pour limiter la gravité de ce virus. Et ce que disait Brigitte Autran, qui est la nouvelle Delfraissy, puisqu'elle a remplacé le professeur Delfraissy à la tête de ce qu'on appelle le COVAR, qui n'est plus le conseil scientifique, mais qui est le nouveau conseil, c'est la nouvelle institution sanitaire, et elle dit que tous les indicateurs sont en augmentation, les taux de positivité, d'hospitalisation, de consultation aux urgences, et même une amorce d'augmentation du taux d'hospitalisation en réanimation. Oui, la 8e vague est là, alors faut-il de nouveau imposer le masque dans les transports en commun, et peut-être plus généralement dans les lieux publics, à l'école, voilà. Ou est-ce qu'il faut continuer comme maintenant, c'est-à-dire que tu portes le masque si tu en as envie, sauf que principalement, les gens ne portent pas le masque, il suffit de prendre le métro à chaque jour.
Alors, Zora.
J'ai lu, oui, effectivement. Non, moi, je pense qu'il faut, maintenant qu'on a un peu de recul sur cette maladie, il y a des gens qui portent le masque dans les transports aujourd'hui, hein, y a des gens qui le mettent. Je pense qu'il faut, là, pour le coup, laisser la responsabilité individuelle. Moi, j'ai rechopé le Covid pour la deuxième fois cet été au mois de juillet. Je portais pas de masque. Pas partout, en tout cas. Bon, voilà, je l'ai eu. Ça a duré 48 heures où j'avais un peu de fièvre et j'étais un peu fatiguée. Mais je pense que...
T'es vacciné?
La première fois, oui. Que tu l'as vu de manière costaud.
Oui, oui, trois semaines.
T'es vacciné, t'as tes quatre doses?
Non, jamais, même pas en
rappel. Ah bon?
Non, je veux pas.
Ah, t'as pas fait la dose
non.
de rappel?
Non.
Pourtant, tu fais partie des personnes...
Non, mais compte tenu de ma pathologie et de ma maladie, je suis pas très rassurée. D'accord. Voilà, j'ai déjà un traitement nouveau, je vais pas rajouter... je suis un peu flippée là-dessus. Donc, j'ai fait la première dose et après, j'ai pas fait. mais j'ai été malade au mois de juillet, donc. Mais en tous les cas, autour de moi, des gens ont eu 3-4 doses, ils ont tous été malades une deuxième et une troisième fois. Donc ça change rien. Mais moi, je pense qu'il faut laisser la responsabilité individuelle. Il faut pas retourner dans la psychose. Maintenant, les gens savent que s'ils mettent pas de masque, ils peuvent l'attraper. Donc laissons la possibilité aux gens de le mettre ou de pas le mettre.
Mais donc pas d'obligation.
Voilà, plutôt que de recommencer à une coercition.
Etienne, bah, moi, ce qui me pose problème dans cette affaire, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris depuis le début. Dont nous parlons, c'est la réaction des Français face à ça. J'étais en Italie la semaine dernière. Au moment de rentrer dans le métro, on te dit mettez le masque et les gens ont un masque. Voilà.
Et obligatoire alors dans le métro encore.
Alors oui, alors ça dépend peut-être des villes.
C'est recommandé nous dans les métros et dans les
mais
transports.
Mais c'est étrange parce que il y a une espèce en France, il y a une espèce de fronde. Alors qui a été très politisé à un moment, qui a été récupéré, on était dans un pays fasciste et puis après etc etc. Donc il y a une espèce de fronde qui s'est fait et comme tout ce, alors c'est peut-être ça qui fait la grandeur de la France après tout, c'est-à-dire que tout est politique. Je suis sûr qu'on peut faire de la politique avec les pizzas et le hautbois et tout est politique, c'est-à-dire dès qu'il y a quelque chose dans ce pays, dès qu'on dit il faut faire n'importe quoi, il faut rouler à 80 à l'heure, c'est politique, il faut faire si c'est tout devient politique et rien, plus aucun débat n'est possible de façon détachée en disant bah oui effectivement c'est mieux de le mettre parce que ça fait diminuer les contaminations, c'est pas la peine de le mettre parce que finalement ça change rien et qu'on ait simplement un avis et que les gens le fassent parce que on nous demande pas de nous couper un doigt, on nous demande de mettre un masque dans les transports en commun, c'est pas non plus une horreur absolue. Donc je ne comprends pas qu'il y ait
des boutons,
ça redevienne obligatoire.
Bien sûr,
il faut
on n'a pas été rebelles, on a été moutons pendant tout le Covid. Tout le monde
mais attends, été moutons, mais on a été, il y a eu des mouvements qu'on a vu absolument nulle
mais
part.
Ça, c'est les anti-vax.
Des mouvements anti-vax, des mouvements anti-masque, comme si le masque était le pire fascisme au monde. Je veux dire que c'est quand même très français. Et donc, je pense que si le conseil médical fait le calcul,
Brigitte Autrain.
Et vous, pardon,
Brigitte Autrain.
Voit que c'est utile de le mettre dans un lieu fermé. Mais on le mettra dans un lieu fermé, puis basta.
Ce qui est intéressant, les auditeurs des GG ont choisi ce sujet parce que justement, la France est divisée sur cette question. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ou est-ce qu'au fond, on fait confiance à la liberté individuelle de chacun de saisir l'opportunité de le mettre ou pas ? Moi-même, je suis divisé sur la question. Un peu moins lorsqu'il s'agit des transports. Je pense que dans les transports où tu as un attroupement de population, où le virus circule fort, et ça franchement au bout de la 8e vague, enfin je veux dire, même les plus gros anti-vax débiles comme Philippot doivent vraiment l'intégrer dans leur cerveau que ça, je veux dire, ça circule quoi. Je veux dire, c'est bon, voilà, le mec qui va, ça c'est sûr que là t'as raison, on a remis la pièce à tous ces gens là qui vont monter, alors les, j'aime bien ton expression là, les tribuns palettes, les tribuns palettes, ouais. Voilà, ils vont remonter sur leur palette pour nous expliquer que nous sommes dans
plus,
une dictature. Donc sur ce sujet, moi voilà, j'ai du mal à me positionner parce que derrière, forcément, de façon sous-jacente, masque obligatoire égale quatrième dose égale quatrième dose obligatoire, etc. Et ça. Ce qui moi m'intéresserait au fond et j'ai pas réussi à trouver, c'est une étude qui ferait le lien entre celui qui a été vacciné mais qui a attrapé le Covid la première fois, qui l'a attrapé une deuxième fois, et est-ce que dans cette deuxième fois, il y a eu des conséquences graves, voire des décès à la suite, y compris dans la vaccination. Mais j'ai pas trouvé, moi. J'ai pas trouvé. Donc ça.
Comme quoi, il y a eu avec un nombre comparable de nombre de cas, il y a eu beaucoup moins de morts et beaucoup moins d'hospitalisations avec le vaccin. Voilà, on a que ça. Ça veut pas dire que
non, mais c'est la deuxième fois. Je parle pas de la première. C'est une fois que tu l'as eu, une deuxième, voire une troisième fois. Donc effectivement, si on est dans une situation où il faut l'accepter, parce que ça crée quand même un climat anxiogène. On le voit bien, y compris dans nos débats. Je pense qu'il faut ça crée un climat anxiogène. Ça crée de limitations dans la consommation. Et franchement, on pourrait s'en passer aujourd'hui. Ça crée la limitation dans les voyages, y compris ceux qui viennent dans nos pays.
Enfin, moi, je trouve qu'en fait, il faudrait pas que ces appel de François Braun, qui nous prépare un peu hein, quand même, hein,
oui, oui, oui.
Et de Brigitte Autran, masque l'échec aussi de la campagne de vaccination, parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça.
Elle s'est arrêtée complètement.
Il y a une campagne
là.
De vaccination qui a été lancée, la quatrième dose.
Il y a 30 millions de doses en stock dont on ne sait que faire.
C'est la quatrième dose qui doit être faite pour les personnes fragiles, celles qui peuvent effectivement se terminer à l'hôpital. Ouais. Et ça, visiblement, ça ne marche pas comme ça devrait marcher.
Tu sais comment les passer, ces doses
Pourtant, il y a un nouveau vaccin, puisque Pfizer a adapté son vaccin pour qu'il soit plus efficace contre Omicron, parce qu'il faut reconnaître que les vaccins qu'on a faits n'étaient pas très efficaces contre Omicron, puisqu'on a tous...
Et l'autorisation de la mise sur
beaucoup,
marché...
Beaucoup ont chopé le Covid. Non, mais il ne faudrait pas que ça masque. Donc, j'ai l'impression qu'on se sert du masque une fois de plus comme pour dire aux gens, on fait quelque chose.
Privation de liberté.
Mais il devrait plutôt relancer des campagnes de communication sur cette vaccination auprès des personnalités, des personnes qui sont fragiles, plutôt que de commencer à refaire peur à tout le monde sur le masque obligatoire.
Je pense que les endroits fermés, c'est l'anxiété.
Demain, tu dis, jusque fin novembre, le vaccin est gratuit, à partir du 1er décembre, il est payant. Crois-moi que les doses, tu vas les passer.
On va aller du côté du Puy-de-Dôme. Écoutez Aurore. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Vous êtes conductrice de bus, bonjour. Aurore.
C'est ça.
Est-ce que vous pensez qu'il est temps de remettre le masque alors avec ces contaminations qui repartent?
Alors, déjà, moi je tiens à préciser que je suis finno-soignante. Donc en plus, je connais assez bien le problème lié au Covid et à l'intérieur des véhicules. Moi, je suis plus pour que les gens aient le choix de mettre le masque ou pas. Parce que déjà, dans notre métier, nous, les conducteurs de transport, on a un gros problème. Surtout en urbain, c'est qu'on passe 6 heures à conduire avec le même masque. Ouais. Qu'on n'a pas le temps d'en changer. Et on a eu
Le temps d'en changer? Ça prend 10 secondes à changer un masque.
Ah non, mais on n'a pas les 10 secondes avec le retard qu'on prend sur les lignes. On n'a pas, parce qu'on doit repartir directement.
Oui, mais enfin, au moment où vous ouvrez la porte,
au moment
où vous faites un stop où il y a un feu rouge, vous sortez le masque.
Ouais, et là, c'est un problème.
Je
ne
fais pas un argument, en tout cas.
Ça me semble faisable.
C'est pas très long.
Ça peut être pas très long, mais après, il faut encore qu'on puisse en avoir de fournis et tout.
Oui, mais ça, c'est une question de moyens, c'est pas une question de temps. Oui.
Les employeurs nous en fournissent, on a une limitation aussi.
Vous avez combien par jour?
Nous, on en a deux.
Ben voilà.
C'est une société municipale ou privée,
sur votre travail, vous changez deux fois.
C'est privé et ils ne vous en donnent, par exemple, ils ne vous donnent pas dans une petite pochette en plastique,
deux masques, ça suffit. Vous travaillez combien de temps, combien d'heures?
Disons que dans l'environnement fermé,
six heures.
Faut en avoir
6 heures. Deux, tu changes toutes les 3 heures. Enfin, c'est bon.
Si t'en salis un.
Eh bien, tu peux en apprendre de toi. Enfin, sincèrement, moi, je veux bien, pardon. Là, je suis désolé, mais le masque, ça prend 10 secondes à le changer et vous en avez deux.
Enfin, sauf si vous lisez le manuel d'utilisation à chaque fois, mais bon.
Non, il n'y a pas que ça comme problème.
C'est quoi le problème, Aurore?
On a le chauffage dans le véhicule.
C'est quoi le lien?
Et ça, sur les masques, ça nous assèche la peau. Moi, j'ai eu des problèmes de peau et d'eczéma et de peau sèche à cause du masque.
Ouais.
Parce qu'on devait
le porter. Ça, c'est un autre débat.
Ou alors, il faudrait une protection. Est-ce que vous avez une protection FFP2.
C'est pire. Une petite vitre.
Vitrée.
Il faudrait qu'elle soit thermique. Enfin, non.
Après, le problème, c'est que quand on ferme, on y a fermé, mais on n'est pas totalement cloisonné comme il faudrait.
Non.
C'est on ne peut pas totalement cloisonner.
Et puis c'est un nid à microbes, tu attires tous les microbes, tu les concentres. Hein.
Donc vous dites matériellement, et vu le nombre de masques qu'on vous donne, et vos problèmes de peau, vous ne le remettrez pas.
Mais tu vois, je trouve que pour le conducteur qui est précisément 6 heures de suite dans un brassage permanent, je trouve que par respect pour lui, on devrait lui dire bonjour quand on rentre dans le car
et mettre un masque
pour respect pour lui.
J'ai
pas envie de choper le Covid. Je mets un masque si mon interlocuteur en face n'en met pas. Bah tant pis pour lui. Moi en tout cas, je me suis protégé.
Aurore, donc c'est la responsabilité individuelle. David.
Bonjour.
Alors David, vous vouliez nous raconter votre expérience. Vous rentrez d'Allemagne là.
C'est ça, tout à fait. Et bah, les masques sont toujours obligatoires dans les transports en commun. Et tout le monde les met, sauf les touristes.
Voilà. Et les Français en particulier.
Non, les Italiens et tout. Hein,
voilà. Ah, ils se vengent.
C'est pas que les Français.
Et vous les avez mis ou pas?
Est-ce qu'il y a moins de cas en Allemagne? Ça serait intéressant de voir l'efficacité. Parce que moi, j'entends aussi des médecins qui disent qu'il n'y a jamais vraiment eu d'études formelles sur l'efficacité du masque. Alors, on peut imaginer avec du bon sens que c'est efficace quand il y a beaucoup de monde dans un lieu clos, mais il n'y a jamais vraiment eu d'études très précises. Donc, je voudrais savoir si le masque est obligatoire dans les transports en Allemagne.
Il y a moins
de cas qu'en France.
Il y a eu des études qui ont formellement indiqué que dans toutes les manifestations extérieures de regroupement de population, zéro cluster extérieur. À l'intérieur, c'est pas le même sujet, mais à l'extérieur, il n'y a jamais eu de cas déclarés.
Bah, vous voyez, David, effectivement, ce que vous dites, je regardais du coup l'Allemagne. L'Allemagne remet en place les mesures obligatoires. Masque FFP2 à partir de 14 ans dans les trains longue distance. Test négatif requis pour les visiteurs dans les maisons de repos et les hôpitaux. Port du masque sur les liaisons locales en train et en bus et dans les espaces publics intérieurs tels que les magasins et les restaurants.
Ils ne vont pas nous emmerder.
1er
dans les
octobre
restaurants.
2022.
Hein. Bah, t'adores l'Allemagne, toi, tu devrais.
Par contre, je tiens à signaler. Je tiens à signaler que j'étais à la fête de la bière et là, par contre, le masque n'était pas obligatoire. Dans les chapiteaux, c'est.
Pour le lever de coude, c'est pas pratique.
On est côte à côte sur les bancs. Voilà, le masque n'est pas obligatoire.
Puis ça chante.
Bon, mais David, merci en tout cas d'avoir attiré notre attention aussi sur l'exemple allemand. Et vous le remettez en France ou pas?
Oui, moi je le remets parce que déjà pour mon travail, je suis aide-ménagère, donc je vais chez des personnes âgées donc je mets le masque.
Vous mettez le masque et vous avez toujours le petit gel aussi sur vous?
Oui, toujours le gel.
C'est bien, il est bienveillant et protecteur, bravo.
Bah oui. Voilà.
C'est le sens de la responsabilité individuelle.
Mais bien sûr, c'est là-dessus qu'il faut jouer.
Merci David d'avoir été avec nous.
Je vous souhaite
une bonne journée. À bientôt.
Merci
David. Avant de continuer discussion de partir sur le cas de Sandrine Rousseau dans le GG 7 et match, on a évoqué le hautbois, donc son de hautbois s'il vous plaît. Sonate pour hautbois et piano de Poulenc.
C'est beau.
Ah, regardez le sourire d'Étienne Ibigui, tout content parce qu'il a reconnu que c'est lui qui joue.
En plus j'adore Poulenc. C'est un auteur français, c'est un compositeur français qu'on a un petit peu oublié, qui est un très très grand compositeur qui a fait beaucoup évoluer la musique.
Plutôt que d'écouter le pipeau.
On écoute du hautbois. Allez, monte.
Écoutons le hautbois. Tout se passe sur RMC. Tout arrive.
Si toi aussi tu es chez toi, allonge-toi tranquillement.
Non, ce n'est pas une radio France en grève, vous êtes bien sur RMC.
Tu n'es pas dans un salon de massage, tu es sur RMC.
Non, France Inter n'est pas en grève, c'est bien RMC.
C'est ça, oui.
Moi je me disais, la musique adoucit les mœurs, elles auront été adoucies pendant 25 secondes.
C'est très beau.
Sandrine Rousseau, un atout pour les femmes, GG 7 et match, une équipe oui, une équipe non.
C'est un autre
oui, Étienne et Olivier, une équipe non, Zora et Stéphane. Et on vous attend au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules. Ça continue. RMC Story. Vous savez que dans les grandes gueules, on a tous ceux qui représentent la société avec vous au 32-16. Aujourd'hui, c'est Étienne qui est éducateur. Étienne Liebig, Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Le restaurateur Stéphane Manigold. Si vous avez raté les grandes gueules, vous les récupérez en podcast sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr, ou réécouter les grandes gueules un peu décalées dans le temps. On va y aller pour le GG 7 et match maintenant.
RMC
GG 7 et match.
On va parler du cas de Sandrine Rousseau. Elle crée régulièrement la polémique avec ses prises de position tranchées, clivantes, comme on dit. Vous vous souvenez, elle a souhaité créer un délit de non-partage des tâches ménagères, Sandrine Rousseau. Elle a dénoncé publiquement l'attitude de Julien Bayou envers les femmes au sein du groupe Europe Écologie Les Verts et son ex-compagne en particulier. Et ce ne sont que quelques exemples. Hier, à l'Assemblée nationale, elle se levait dans l'hémicycle où elle a fait un signe de ralliement féministe. C'est-à-dire qu'elle a joint les deux mains, comme ça, en forme de triangle. Ça date des années 60, 70. Ouais. C'est pour dire, voilà...
Exactement, les années 60.
Voilà,
le torchon brûle.
Les femmes ont un sexe, un triangle, un vagin. Voilà ce qu'elle a fait à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau, elle s'en est expliquée.
C'est le signe des manifestations féministes des années 70. Et c'est repris dans les manifestations féministes actuellement. Ça représente le vagin et le système, enfin le sexe des femmes.
Voilà. La question est de savoir si aujourd'hui Sandrine Rousseau, c'est véritablement un atout pour les femmes ou pas. 32-16 pour en parler avec les GG. On a une équipe, oui, avec Étienne et Olivier. Une équipe, non, avec Stéphane et avec Zora. La parole à Étienne. Quelques arguments pour nous dire que c'est un atout. C'est parti. Étienne.
Moi, je trouve que Sandrine Rousseau, elle représente au sein de l'Assemblée et politiquement ce que j'entends beaucoup chez des jeunes femmes, chez des jeunes, pas que femmes d'ailleurs, chez des jeunes garçons aussi, d'une génération qui ont autour de la trentaine, entre 20 et 30 ans, qui ne vont pas voter, qui ne sont pas allés voter parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils croient plus à la politique parce que effectivement la politique ne leur parle pas. Sandrine Rousseau, c'est sur la question du féminisme, mais ils sont aussi assez branchés sur les questions de nourriture, questions aussi de l'avenir de la planète, etc. Tout ça fait un ensemble, et c'est très important que Sandrine Rousseau soit là pour représenter cette jeunesse-là politiquement. Après, qu'on la critique, qu'on trouve que c'est normal, c'est très bien. Elle choque, elle heurte. Elle est là pour ça. Et je trouve très bien qu'elle se fasse allumer. Après tout, c'est le jeu. Elle se connaît très bien le prix qu'elle doit payer pour tout ça. Mais je trouve, il y a des tas de gens qui se trouvent représentés à travers elle. Et moi, je trouve ça très intéressant.
Zora, Stéphane, allez-y.
Pardon, pour moi, elle est dans une communication continue, perpétuelle, où c'est chamboule tout dans sa tête. Non seulement elle ne maîtrise pas les sujets, elle est dans une espèce de communication totalement improvisée et parfois minable, qui dessert même des causes, et en l'espèce c'est le cas, parce qu'en plus elle raconte n'importe quoi sur ce signe. Moi, je rappelle juste, parce que j'ai cherché, elle a voulu prendre un signe de leur émancipation, qui est une image de la une d'un journal féministe qui s'appelle Le Torchon Brûle, paru dans les années 60. Donc en plus elle raconte n'importe quoi, elle est même pas sur ses...
Mais
non,
70,
non, c'est la une d'un, c'est oui, la une d'un journal féministe,
soit précis. Années 70.
Et ben oui, mais faut être
elle
précis,
elle a pas été cherchée sur Wikipédia,
mais au-delà de ça,
effectivement,
elle mélange tout. Elle fait quoi ?
70.
Elle parle à la fois de Quatennens, qui a avoué avoir giflé, et c'est un scandale, et c'est un délit d'ailleurs, donc il doit être condamné, et pourquoi pas, il doit sortir de l'Assemblée nationale. Et ensuite, elle va mélanger avec Abba Dupont-Moretti, où il y a des enquêtes, des présumés, la présomption d'innocence dans ce pays, c'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet.
Abad,
elle bafoue la présomption d'innocence. Donc en fait, elle mélange tout. Et quand tu mélanges tout, tu desserres une cause. Tu ne peux pas à la fois tout mélanger, dire tout et n'importe quoi au nom de ça. Et en plus, Aurore Berger, dans son discours, c'était justement le combat qui doit être juste et mené pour la lutte contre la violence des femmes.
C'est intéressant. Moi, je cautionne pas ce que dit forcément Sandrine Rousseau, mais je trouve que c'est intéressant. Je rejoins ce que dit Étienne sur ce qu'elle représente. Je pense que Sandrine Rousseau représente un courant assez fort, effectivement, dans une partie de la population, et plutôt les nouvelles générations, les jeunes filles, les jeunes hommes, et surtout les jeunes femmes, on va dire, et qui se reconnaissent dans ce discours. Et ça, vous pouvez pas le nier, c'est une réalité. Et après, moi, ce qui m'intéresse aussi en tant que journaliste, c'est analyser la façon dont elle est arrivée dans le paysage politique. C'est un peu une petite Trump écolo, j'ai envie de dire. Alors, je dis Trump, pourquoi ? Parce que elle lance. D'ailleurs, elle l'a théorisé. Hein. C'est pas du tout l'improvisation, contrairement à ce que tu dis. Quand elle fait le barbecue, c'est pas du tout l'improvisation. Elle théorise, qu'elle balance comme ça quelque chose dans le débat. Le barbecue, par exemple. Derrière, tout le monde s'énerve, etc. Et puis derrière, finalement, on commence à dire, mais oui, c'est vrai que la viande, c'est principalement consommée par les hommes, et ceux qui mangent le plus de viande sont les hommes les plus machos, etc. Donc, c'est une façon d'imposer ces débats, d'imposer les thèmes. Comme Trump dans son style un peu aux États-Unis avec ses tweets. Sandrine Rousseau, elle a tout compris de la communication moderne, et il y a plus d'effet dans ses propos que 25 discours de Yannick Jadot, et pourtant ils sont dans le même parti. Voilà. Après, on est d'accord ou pas, c'est pas mais il faut reconnaître qu'elle a inventé quelque chose et qui pour l'instant marche.
Non, elle a inventé la médiocrité des politiques.
Zora.
Voilà. La question, c'est: Sandrine Rousseau est-elle un atout pour les femmes? Moi, je suis une femme, hein, jusqu'à nouvel ordre. Sandrine Rousseau, d'abord, bon, Olivier vient de nous expliquer qu'elle a un grand talent de communicante et qu'elle a un grand talent pour servir sur l'espace médiatique des thèses et des théories, certaines fumeuses, et qui conduisent les uns et les autres à faire le débat. Jusque-là, ça ne sert pas ni ma cause de femme et ça ne sert pas la cause de femme, mais les ça sert général. Un espace politico-médiatique qui, lui, se délecte et se régale et qui, du coup, est intéressé. En tant que femme, pour moi, la vision de Sandrine Rousseau, pour moi, c'est une féministe bourgeoise blanche qui s'adresse à ces gens-là. Elle ne s'adresse à aucun moment à ma féminité à moi, ni à mon féminisme à moi. Moi, je suis exclue du féminisme de Sandrine Rousseau. Pourquoi ? Parce que Sandrine Rousseau, dans son féminisme, elle s'intéresse à des choses qui ne remettent pas en cause le patriarcat qui toucherait certaines populations. Et elle, nous sommes pour elle, entre guillemets, les femmes issues de cultures musulmanes et maghrébines, assignées donc, à notre voilà. identité, parce que nous parler de féminité à nous, c'est remettre en cause une culture à laquelle elle doit vouer un certain respect et une certaine distance, parce que c'est votre culture. Donc, pour moi, Sandrine Rousseau passe son temps à insulter mon droit à la féminité au même titre qu'une femme blanche et bourgeoise et au même titre que n'importe quelle femme. Donc à ce niveau-là, elle peut séduire. Pourquoi ? Pourquoi elle séduit une jeune génération ? Parce que la jeune génération qui est séduite par ce féminisme, non, cette génération qui est séduite par ce féminisme, c'est la génération des bourgeois, des descendants de petits bourgeois des années 70, des enfants et des petits-enfants, pour qui cette cause est une cause, j'allais dire, sympa, qui va du climat jusqu'au barbecue, en passant par les poils, en passant par la vaisselle, en passant jusqu'à la caméra dans le lit. Mais ça, c'est pas le féminisme de combat, c'est pas le qui émancipe, c'est pas le féminisme qui donne des droits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à quel moment elle est un atout de féminisme au-dessus du panier, sans trier les femmes. La première chose indispensable dans le féminisme, c'est l'émancipation de la femme. C'est l'utilisation de sa liberté sans que personne n'entrave cette liberté. Or, pour Sandrine Rousseau, certaines ont le droit à cette liberté et cette émancipation et pas d'autres. Elle l'a montré quand elle a dit que le voile était un embellissement. Non, or, elle prend une minorité pour qui le voile est un embellissement et elle occulte la majorité. Elle est un atout pour certaines femmes, mais elle n'est pas un atout pour la cause des femmes inclurait la totalité des femmes, et en particulier celles qui sont le plus éloignées de par leur culture, de par leur milieu, de par leur religion, de la liberté. C'est elles qui en ont besoin d'urgence, et elles ne pourront pas rattraper le wagon du poil que tu ne te rases pas ou de la vaisselle que tu ne fais pas. Elles sont beaucoup loin et c'est beaucoup plus grave.
De toute façon, quand tu défends une cause, à partir du moment où tu es excessif, et c'est son cas, elle est constamment excessif.
Radical plutôt que
excessif. Elle a une grosse radicalité. Radical. Tu parlais de Twitter tout à l'heure. Honnêtement, moi j'ai du mal de dissocier le compte Sardine Rousseau de Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que je suis obligé de relire deux fois l'orthographe du prénom pour être sûr que c'est bien Sandrine Rousseau qui vient me tuer. Donc c'est compliqué.
Complètement.
Mais si tu veux, tu parlais de sa base fan. Sandrine Rousseau, on l'observe, elle a un club de fans qui ne bougera pas. Mais elle n'engrange pas de nouvelles personnes qui adhèrent à ses propos. La réponse, on l'a eu dimanche lorsqu'elle est montée sur la tribune et qu'elle a voulu prendre la parole pour défendre les femmes iraniennes. Elle s'est fait huer, siffler avec des mots d'une violence aussi violente qu'elle.
Mais je suis pas sûr qu'électoralement elle aurait fait moins que Yannick Jadot à la campagne présidentielle qui, rappelons-le, a fait 4%.
Électoralement, je suis pas sûr que demain, s'il y a une dissolution, elle soit réélue, tu vois, par exemple.
Je pense que il y a plusieurs formes de féminisme, et depuis le début, depuis le premier jour de l'existence du féminisme aux États-Unis, il y a eu plusieurs formes de féminisme. Il y a un féminisme.
Et les tenantes du MLF étaient caricaturées dans les années 70.
Bien sûr, et puis on les haïssait exactement comme aujourd'hui, avec exactement les mêmes arguments. Aujourd'hui, on les adule. On trouve que Madame Badinter est une être formidable, mais à l'époque, on les haïssait littéralement. Et les hommes les haïssaient en disant qu'elles remettaient en cause.
Qu'elles étaient mal baisées.
Mal baisées, et qu'elles remettaient en cause l'organisation même de la société. Donc en fait, c'est tout à fait normal qu'elles soient haïes. Mais ça, je veux dire, ça fait partie.
Il y a des féministes respectées.
Non, non, partie. ça fait partie
genre c'est la victime, le bouc émissaire.
Ça, ça fait partie du jeu habituel. À partir du moment où on prend des positions qui sont comme ça, on sait qu'on va s'opposer à la grande majorité. Je lui souhaite qu'elle s'en foute complètement et qu'elle soit au-dessus de ça, parce que sinon, elle va pas dormir beaucoup. Mais effectivement, elle est aujourd'hui devenue le mauvais objet. Mais elle fait son rôle, elle assume son rôle de lanceuse d'alerte, entre guillemets, en quelque sorte. Et alors, certainement qu'elle dit des conneries, certainement qu'elle en fait trop, certainement qu'elle passe à côté d'un certain nombre de combats féministes qui vaudraient le coup. Il n'empêche que son existence au sein du monde politique est importante.
Alors,
et qui nous fait réfléchir.
Dans un instant, on en parlera avec Joël, Stéphane, Étienne et Zora. On en parlera avec Joël, qui est assistante. Elle est dans l'heure. On verra quel est son camp. Est-ce que Sandrine
Rousseau... Là, vous allez prendre une branlée, là.
Oui, Sandrine Rousseau, un atout pour les femmes.
Normal,
on y va. C'est la mi-temps. Non, je crois que c'est un des plus gros scores.
Non, il y a eu pire.
Tu crois? Avec 93% de non, 7% de oui.
Allez, venez.
Là, c'est arrivé. Allez.
Vous payez la pizza ce midi?
Au moins passez, Olivier. Au moins passez la barre des 10.
Oui.
Essayez de passer la barre des 10.
Vous êtes mal.
Allez, à tout de suite. Avec
tellement la bien-pensance.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC et RMC Story. On discute du cas de Madame Rousseau.
Cas désespéré,
L'élu de la République. Elle est députée, Sandrine Rousseau. Et l'Europe Écologie Les Verts, élu de Paris. Alors, est-ce qu'elle est un atout pour la cause féminine? On en parle avec Joël qui nous appelle de l'heure. Bonjour Joël.
Bonjour les grandes gueules.
Bienvenue dans la discussion. Alors, oui ou non?
Ah, mais moi, je suis dans la team Zora parce que elle a tout dit. Elle est toujours très juste et tout. Non, cette femme ne sert pas la cause féminine. Elle est hystérique, d'accord. Nous, elle essaye. En fait, elle nous met dans une catégorie de femmes à se révolter pour tout. Et quand elle a présenté le signe de l'utérus à l'Assemblée nationale, mais vous savez quoi, je me suis sentie très mal en fait, parce que je ne sais pas ce qu'elle fait de son utérus, cette femme-là. Moi, j'ai fait des enfants avec mon utérus. Je prends encore du plaisir à l'utiliser aujourd'hui, même à 60 ans. Et voilà, elle est en train de réduire.
Ça, c'est la vraie émancipation.
Allez-y, continue, Joël, pardon.
Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve... En plus, son combat, il est nul, son combat. Elle s'adresse à quelle femme, en fait, hein? Elle s'adresse à des petites bobos, là, qui ont que des problèmes un petit peu mineurs, etc. Mais moi, je suis AVS, je travaille auprès d'enfants en difficulté dans les écoles. Est-ce qu'elle a un signe pour moi? Est-ce qu'elle s'occupe vraiment des femmes qui ont des vrais problèmes? Non, en fait. Elle nous parle de barbecue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle fait autant de communication qui ça n'est juste le, elle fait juste le buzz. Elle s'occupe pas de la cause féminine, cette femme-là. Pas du tout. Quand elle passe des tâches ménagères, mais moi, je veux dire, j'ai 60 ans, je suis avec un compagnon, moi, je travaille, lui, il travaille pas, bah, il passe le balai, l'aspirateur, et puis ça pose aucun problème.
Joël, désolé, hein, vous avez raison, c'est la classe ouvrière, ces femmes ouvrières dans les usines, dans les écoles, dans les emplois humains, et c'est aussi, ce qui est assez hallucinant, c'est comment elle a géré l'affaire Bayou. C'est-à-dire qu'au sein d'Écologie des Verts, c'est-à-dire qu'on dit pas aux femmes, il vous est arrivé quelque chose, il faut tout de suite saisir la justice. Non seulement on cache au sein de la structure des violences faites aux femmes, et en plus de ça, pire, on va alerter le potentiel compagnon qui aurait commis ces actes, que sa compagne a porté plainte au sein de la structure, au sein de LV. En fait, voilà, la violence faite aux femmes, quand elle est en famille, entre nous, chez ELV, il n'y a pas de souci, on cache tout, on camoufle.
C'est l'inverse.
Pas forcément.
C'est l'inverse, c'est Bayou. Elle-même qui a parlé des violences.
Non, sur Bayou, ce qui s'est passé...
Cite-moi un autre parti dans lequel, au sein de... C'est comme si les gens du parti de Macron avaient chargé Abad. Personne l'a chargé, tout le monde l'a défendu. C'est elle qui a dit j'ai été mis au ministre de violence.
Ce que tu ne veux pas entendre, c'est que dans l'affaire Bayou, lorsque la compagne de Bayou s'est plainte à la structure, Julien Bayou a été tout de suite averti et en tous les cas
il
c'est resté
été, voilà, il n'a jamais été entendu. Mais,
voilà, et en plus il n'a jamais été entendu.
Comme Abad, la façon parle, il a pas été condamné. Attends, tu parles de l'affaire Abad, il a même pas été condamné.
Allez-y Joël.
Enfin, non, non, il n'a pas été condamné Bayou à ma connaissance.
Bien sûr.
Allez-y.
Qui a été reçu par la femme de enfin l'ex-compagne, je ne sais plus, de monsieur Bayou, c'est bien Sandrine Rousseau.
Complètement.
Voilà, donc il y a un
problème. Oui, mais voyez aujourd'hui, Joël, voyez, l'avocate de cette ex-compagne dénonce Bayou et c'est l'instrumentalisation politique qui fait de cette affaire. Elle lui reproche d'avoir été hier, j'imagine, sur plateau de C'est à vous, d'avoir parlé au Monde. Donc voyez, c'est pas si simple que ça, cette affaire Bayou, même si effectivement aujourd'hui il n'y a pas de délit avéré, mais c'est
en
voilà,
plus,
on parle
en
de
tout
violence.
Cas, si tu veux.
Après, moi je suis là où je suis d'accord avec toi Zora, c'est que je pense que Sandrine Rousseau ne elle réconcilie dessert. Pas mais la gauche avec la classe ouvrière. Ah c'est plutôt un électorat, non. Effectivement, d'une certaine génération, urbain,
de cette
jeunesse, etc.
On les haïr automatiquement.
Mais c'est privilégié, c'est la France aussi.
Mais c'est eux qui font bouger les choses.
La France, elle est faite de tout le monde. Elle est pas, il n'y a pas des gens qui ont le droit de parler, d'autres qui n'ont pas le droit de parler.
Moi, je réponds à la question. Est-ce qu'elle est un atout pour les femmes? Non, j'ai répondu, elle est un atout pour les femmes.
Après, c'est vrai que peut-être que je pense, s'il y avait un conseil à donner à Sandrine Rousseau, c'est de ne pas oublier aussi cet électorat de gauche qui aujourd'hui ne vote plus à gauche mais qui pourrait être aussi sensible à ces questions.
Et puis je rappelle quand même dans toutes les histoires des mouvements ouvriers et des mouvements féministes, ça s'est toujours éveillé à partir de gens qui faisaient partie plutôt
à quel
des,
moment
attends ouais, excuse-moi non. qui faisaient partie plutôt des classes intellectuelles moi. Des classes intellectuelles qui ont écrit. Il n'y a pas plus bourgeois que
Robespierre
plus bourgeois que Simone de Beauvoir. Il n'y a pas plus
est-ce que je peux
de la bourgeoisie.
Est-ce que je peux ça ne m'a jamais gêné que des causes soient portées par des bourgeois et je n'ai aucun problème avec la bourgeoisie. La seule question, c'est pourquoi Sandrine Rousseau élimine de son champ
le féminisme. Elle dit que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent.
Elle
dit juste qu'elles font ce qu'elles veulent.
Non, voilà. C'est pire. C'est pire que ça. Étant une femme de gauche qui adhère à cette idéologie de gauche qui assigne à leur identité un certain nombre de populations, elle considère que le féminisme que certaines pourraient revendiquer est un féminisme, on va dire, raciste, est un féminisme qu'on me laisse de côté. Mais c'est pas faux, c'est factuel.
Non,
c'est factuel, c'est la réalité.
L'idée, c'est de dire que chacun fait ce qu'il veut, c'est tout.
Non,
c'est peut-être une connerie.
C'est
exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est que tu traites les propos de Zora Vitan de caricature et tu défends une caricature sur pattes.
Écoute,
non, mais attends, poursuivre mon propos. Sandrine Rousseau, en fait, si tu veux défendre une cause, si tu veux faire un parti politique, tu la prends chez toi, t'as pas besoin d'ennemis. Elle flingue tout le monde. Elle flingue son parti politique, flingue les causes qu'elle défend. Mais non, c'est pas bien. Elle flingue les causes.
Elle défend
la preuve.
Elle est juste honnête avec elle-même, parce que tu connais aucun politique.
Joël, en tant que femme, a dit qu'elle ne se sentait pas représentée par Sandrine Rousseau. Aliou va en discuter avec nous aussi, qui est un fidèle du GG. Bonjour Aliou.
Est-ce qu'on t'entend?
Bonjour Aliou.
Bonjour. Mon cher Aliou, est-ce qu'elle est un atout pour la cause féminine, pour les femmes?
Sandrine Rousseau est un atout et j'ai l'impression qu'on oublie que Sandrine Rousseau est une politique et elle fait de la politique et avant tout d'abord dans la politique. Il faut savoir recevoir les coups, mais il faut savoir en donner. Aujourd'hui, les gens à qui ils donnent des coups s'étonnent qu'elles se défendent. C'est très bien pour ça. Moi, personnellement, Sandrine Rousseau, je trouve qu'elle fait du très bon boulot. La cause de la femme n'est pas seulement la cause des femmes, mais la cause de la société. Et aujourd'hui, elle a toute sa place dans l'hémicycle. D'ailleurs, moi, cet hémicycle, je la kiffe. C'est tous les jours chips, popcorn.
Ah bah, il n'y a plus besoin de Netflix. Hein. Vous pouvez retirer votre abonnement Netflix.
Depuis un moment, c'est, comme je disais là, dans cet hémicycle, c'est chips popcorn avec Obono, avec Sandrine Rousseau, qui se battent vraiment pour des gens comme moi qui ne se sont jamais sentis représentés dans cet hémicycle. Et enfin, on a des gladiateurs.
Des exemples, Aliou.
Vous êtes à 93%. Vous pouvez laisser Aliou qui est avec nous.
Allez-y, il va donner des exemples.
Il a raison.
Pardon, mais laissez-moi finir. Moi, je trouve que ces femmes-là sont des gladiateurs aujourd'hui. faut pas s'étonner qu'elle rende les coups, et elle les rend très bien. J'en ai marre de ce Sandrine Rousseau bashing. Aujourd'hui, on ne cesse de la caricaturer, alors qu'elle fait évoluer le débat. Elle met les choses sur la table, on en parle, et tant mieux. Mais et comme je disais tout à l'heure, la cause des femmes ce n'est pas seulement la cause des femmes, c'est la cause de la société. Toute la société est concernée. Et moi, clairement, Sandrine Rousseau, lorsque je l'entends parler, porter certains sujets, je suis... Mais parfois, je ne suis pas forcément d'accord avec elle. Mais je dis qu'elle pose le débat et on en parle.
Mais comme, comme tous les politiques, Aliou, c'est important parce que la question, c'est Sandrine Rousseau est-elle un atout pour les femmes? Donc, j'aimerais de votre part que vous me donniez... un ou deux exemples très concrets.
Succès.
Succès d'atout pour les femmes.
Mais c'est pas une question. Vous savez, le succès, c'est subjectif. Parce que vous, vous n'êtes pas d'accord.
Mais qu'est-ce que tu obtiens quand tu es député? Quand tu es député, tu passes les lois. Tu as obtenu quelles lois?
On a vu la haine.
On pourrait exactement faire la comparaison avec ce qui s'est passé avec Rachel Keke. C'est-à-dire que cette espèce de quand elle est arrivée, c'est une députée qui avait été une femme de ménage qui s'est battue. D'ailleurs, ce soir sur une chaîne de télé, il y a l'histoire des femmes de ménage avec Rachel Keke. C'est intéressant de voir la haine qu'elle a déclenchée au moment, je vous rappelais qu'au moment où elle a été élue, où tout le monde s'est moqué, où tout ça, il y a eu un mouvement.
Morano déclenche de la haine. Mais arrêtez de d'essentialiser. Non, mais il m'énerve parce qu'à chaque fois, il ramène des gens de couleur.
Non, je n'essentialise rien.
Il y a plein de femmes politiques blanches qui s'en prennent plein la figure. Et on les érige pas en victimes. Morano, à chaque fois qu'elle l'ouvre, elle se fait lyncher. Voilà, Nadine Morano. Non, mais à chaque fois, parce qu'on est ouvrier, on doit être épargné. Bah non, on fait de la politique aujourd'hui.
J'ai juste dit à un moment qu'il y a des gens qui se sont représentés dans cette Assemblée nationale qui ne l'étaient pas avant, c'est tout.
Et
vous devriez être content, et toi tu devrais être content.
Mais est-ce qu'on a dit le contraire?
Coup de sifflet final. Terminé, GG, c'était match. Merci.
Résultat, s'il y avait un gros suspense.
Merci Aliou, merci Joël d'avoir été avec nous. Sandrine Rousseau, un atout pour les femmes. Le défi, c'était que vous arriviez à passer la barre des 10%.
Non. Ça n'a pas bougé. Ah bah d'accord.
Statu quo.
Bravo, merci à tous.
93%. Non, elle ne représente pas un atout pour les femmes. Pour ceux qui ont participé à notre discussion. On se retrouve demain dans les GG, dans les grandes gueules. Nous serons avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Nous serons avec Mehdi Guézard, qui est chef d'entreprise, Kevin Bossuet, le professeur d'histoire-géographie. Je vous rappelle que vous avez les podcasts à votre disposition si aujourd'hui vous avez raté les grandes gueules. C'est sur rmc.fr ou bien c'est sur l'appli RMC. Voilà, c'est dit. Estelle Denis, s'il vous plaît, rejoignez-nous donc.
Ça va bien?
Oui, je suis désolé, c'est un peu la pagaille.
Oui, je ne peux pas m'asseoir, mais ça, ce n'est pas grave.
Il y a les portables des copains, il y a ma bouteille d'eau.
Je ferai ça debout. On va parler de la SNCF, tiens, qui va augmenter ses tarifs à cause de la hausse des prix de l'énergie. Est-ce que c'est honteux? Eh bien, on attend vos réactions, bien sûr, au 32-16. François Ruffin, le député LFI de la Somme, qui milite pour un référendum sur les retraites. D'accord ou pas d'accord avec lui? Et puis, l'augmentation du nombre de tenues islamiques à l'école. Est-ce qu'il faut rendre le port de l'uniforme obligatoire pour éviter ce phénomène? Là encore, on vous attend.
Ils sont déjà tous en survêtement.
Aussi le phénomène des survêtements.
Les garçons, tu les vois, ils arrivent tous en survêtement avec un maillot de foot. Maintenant, tu vas avec un maillot de foot à l'école.
Pas dans les écoles privées.
Ah oui, pas chez nous, monsieur.
À l'Assemblée nationale, Ruffin avait un maillot de foot. Excusez-nous.
Non, mais tu peux, dans ton règlement intérieur, interdire le survêt à l'école. C'est pas un souci.
Sauf quand t'as sport.
Passez une bonne journée. Débattez bien avec la camarade Estelle Denis et sa bande qui est là aujourd'hui.
Écoutez, on a Fatima Ben Omar, Fred Hermel et Pierre Rondeau.
Bon débat au 32-16
oui, ça va le faire,
et à demain 9h.